dans le livre des Actes au chapitre 2. Nous allons faire deux lectures ce matin. Notre thématique est toujours l'Église. Pendant ce mois d'août, nous considérons quatre grands fondements, quatre piliers spirituels qui sont présents dès le commencement de l'Église primitive. Actes chapitre 2, verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » C'est juste après la Pentecôte. Et voilà comment tout de suite l'Église primitive, qui est le seul modèle d'Église viable, valable, s'organise. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ça, on l'a vu, ça nous ramène directement à l'autorité de la parole dans nos vies. Et puis, dans la communion fraternelle, on l'a vu la semaine dernière, aujourd'hui, on va voir dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Vous pouvez tout de suite faire avec moi une lecture dans l'Épître aux Colossiens. Épître dans laquelle, encore plus que dans les autres, l'apôtre Paul va insister sur la divinité de Jésus, la prééminence de Christ, sa supériorité, la toute suffisance de sa personne et de son œuvre. Colossiens chapitre 2, simplement les versets 14 et 15. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Nous avons dans le texte d'Acte 2 ces quatre indicateurs d'une Église en bonne santé, quatre piliers spirituels qui sont la garantie d'une Église solide et pérenne, qui restera toujours l'Église au sens où Jésus la veut, si il la conçoit. Aujourd'hui, nous partageons sur ce troisième pilier qui est la fraction du pain. Parler de la fraction du pain, ça nous ramène nécessairement à la réalité de la croix. La fraction du pain, évidemment, c'est la scène. Lorsque nous partageons le pain et le fruit de la vigne, ça nous ramène à la réalité de la croix. L'Église primitive était centrée de cœur, pas de confession de foi, était centrée de cœur, l'Église primitive était centrée sur la croix, sur son œuvre et sur les réalités qui sont exprimées par le pain et le fruit de la vigne. Si vous voulez en savoir plus sur la scène, il y a un message spécifique sur le site internet pour la forme, les symboles, les dérives, les conditions d'accès, etc. Ce n'est pas mon sujet ce matin. Je veux absolument considérer avec vous la réalité de la croix dans la vie du disciple parce que, évidemment, la scène, on l'avait très bien compris, n'est pas un rituel quelconque. Ce n'est pas du pain pour du pain et le fruit de la vigne. Les symboles, oui, ce sont des symboles. On sait qu'ils n'ont pas de valeur en eux-mêmes. Mais la réalité qui est décrite par ces symboles est de la plus haute importance pour nos cœurs, pour nos vies, c'est vital. Et puis, c'est même une réalité qui doit être permanente, que nous ne vivons pas en réalité seulement le dimanche, ou on pourrait dire le mardi, ou parce que la scène, on la commémore ici le dimanche, parce que c'est pratique, c'est là qu'il y a le plus grand nombre de disciples qui sont rassemblés, mais on pourrait le faire le mardi soir, il n'y a aucun souci. On pourrait le faire avec les aînés le jeudi, on pourrait le faire avec les jeunes le samedi, on peut le faire de tas de façons à différents moments. L'apôtre Paul dit bien « quand vous vous assemblez ». Donc là, de ce côté-là, chaque église a sa liberté d'organisation, bien sûr. Mais ce qui est vital et ce qui est permanent, c'est ce que nous vivons dans notre cœur. Alors oui, cette table, c'est un mémorial. Mais Jésus a été très clair, faites ceci en mémoire, oui, parce que le Seigneur sait que la nature humaine est une nature oublieuse. Et il veut sans cesse nous ramener à ce qui est essentiel pour nous, pas seulement pour le salut, mais pour notre qualité de vie. On va en parler. Mais Jésus dit bien, faites ceci en mémoire de moi, Luc chapitre 22, faites ceci en mémoire de moi quand il institue la scène. C'est-à-dire qu'en réalité, bien-aimés, nous revenons encore et toujours, nous revenons sans cesse à Christ et à son œuvre. Jésus a institué ce moment parce qu'il veut que l'Église se rappelle. L'Église, c'est l'ensemble des disciples qui le commémorent ensemble. Jésus veut que l'Église se rappelle le caractère unique, volontaire et suffisant de sa personne et de son œuvre. Nous nous remémorons la grandeur de son amour, nous nous remémorons, la scène nous ramène à la grandeur de son amour et nous ramène aussi à la hauteur du prix payé. Jésus à la croix a payé le prix le plus élevé qui soit. Il supporte ce qui est humainement insupportable. Nous sommes tous effectivement, oui, victimes d'injustices. On a tous des blessures, on a tous des pertes, on a tous des injustices. Nous subissons tous du mépris ou des affronts à différents moments dans nos vies. Mais l'injustice avec un I majuscule, l'injustice suprême, c'est Jésus. Nous pouvons être tous victimes les uns et les autres à différents moments, sur différents domaines. Parfois nous sommes victimes du péché des autres, parfois nous faisons souffrir les autres par nos propres péchés, par nos lacunes de caractère. On peut être victime, mais la victime avec un V majuscule, c'est Jésus et personne d'autre. Et Jésus nous ramène ainsi par la scène qui ne doit pas être seulement une commémoration dans nos rassemblements physiques, mais qui doit être une réalité spirituelle dans nos cœurs. Le Seigneur nous ramène au prix payé, à l'injustice suprême, au prix ultime, pour que la dette de nos péchés puisse être effacée. La scène, la fraction du pain, exprime des réalités. C'est que ce pain que nous brisons, le pain qui est rompu, c'est l'image, c'est une image du corps du Jésus qui a été déchiré. Et le corps de Jésus a été lacéré, il a été brisé, il a été déchiré, pas par le fouet des Romains. Je veux me souvenir, pas seulement dimanche, je veux me souvenir chaque jour de ma vie, parce que c'est dans son sacrifice qu'il me rend la vie, que j'étais mort et que je suis vivant. C'est par sa mort que je retrouve la vie. Je veux me souvenir chaque jour pour le louer à la hauteur de ce que je dois le louer. Que ce sont mes péchés qui ont déchiré son dos. Et pas le fouet des Romains, c'était la main humaine. Les religieux, la foule, les Romains, peu importe, c'était la main humaine par laquelle le jugement, la colère divine est passée et s'est abattue sur lui. Mais c'était le fouet de nos péchés, dit le prophète Ésaïe, c'est pour nos péchés qu'il a été brisé. Et puis, ce fruit de la vigne, parce qu'on le sait, on l'a compris, c'est pas du vin, du jus de raisin, ce que vous voulez, c'est les textes sont clairs, c'est le fruit de la vigne. Ça, c'est une image pour nous montrer que son sang pur et innocent a été versé pour le pardon de nos péchés. Nous nous souvenons que le sang de Jésus est le seul qui pouvait effacer nos péchés. Psaume 49, ils ne peuvent pas se racheter l'un l'autre. Personne ne peut donner à Dieu le prix de son rachat. Il fallait absolument un agneau, si on remonte jusqu'à la sortie d'Égypte dans l'Exode, l'institution de la Pâque, pour faire ce parallèle. Il fallait un agneau parfait, sans défaut. Il fallait que Jésus s'offre lui-même parce que le péché est une offense à la sainteté de Dieu. Mon péché, ton péché est beaucoup trop grave pour que Jésus puisse passer l'éponge comme ça, pour que Dieu passe l'éponge. Il doit y avoir mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que quelqu'un paye. Si Dieu n'est que grâce et qu'il passe l'éponge, il renie sa sainteté. Et finalement, le péché n'est pas si grave et Dieu n'est pas si saint que ça. Mais si jamais il n'est que sainteté, il va condamner le pécheur, mais il n'est plus un Dieu de grâce. Humainement parlant, j'ai bien dit humainement parlant, il y a un sérieux dilemme. Comment est-ce que je peux être tout à la fois sainteté, manifester ma loi qui doit être assouvie? Il faut que le péché soit condamné. Le salaire du péché, c'est la mort. Il faut une effusion de sang. Il faut que la loi soit accomplie. Il faut que la justice et la colère de Dieu soient apaisées. Et puis en même temps, Dieu veut faire absolument grâce au pécheur. Parce que s'il condamne le pécheur en même temps que le péché, parfois nous chantons « Tu n'as pas voulu les cieux sans nous », combien c'est vrai. Et c'est ce qui a fait, c'est ce qui a amené que Dieu ne pouvait pas passer l'éponge. Parce que la grâce de Dieu, ce n'est pas la grâce présidentielle. La grâce présidentielle, c'est que lorsqu'un condamné, si le président l'estime, un condamné, le président lui fait grâce. Mais qui va payer sa dette ? Personne. Aux yeux de la loi, c'est totalement injuste. La loi n'est pas assouvie. Ce que dit la loi n'est pas respecté. La grâce de Dieu, ce n'est pas la grâce présidentielle, parce que Jésus dit « Moi, je vais payer pour eux. » Amen. Il paye pour nous. Et parce qu'il paye pour nous, nous pouvons dire que la loi de Dieu, la grâce de Dieu a été manifestée, la grâce de Dieu, mais que la sainteté, la loi et la colère de Dieu ont été parfaitement assouvies. Et ce qui était humainement parlant un dilemme n'est pas un dilemme pour Dieu, puisque de toute éternité, dit Pierre, l'agneau immolé, le sacrifice parfait, était prêt avant même la fondation du monde. Béni soit son nom, le Seigneur avait déjà établi ce plan éternel de salut. Et c'est ce que Jésus fait, c'est ce que nous commémorons, c'est ce qu'il fait pour que chaque pécheur, s'il est réellement repentant, parce que nous n'accédons au pardon, à la réconciliation avec Dieu, que par le moyen d'une authentique repentance et par le moyen de la foi, il faut que chaque pécheur repentant, confiant, accède au pardon, à la réconciliation, au salut, à la vie nouvelle. Et lorsqu'il y a cette repentance et cette foi, le pardon et la réconciliation que Jésus nous a acquises à la croix, à ce moment-là, par la repentance et la foi, uniquement par la repentance et la foi, peut être libéré de Jésus, ce qu'il nous a acquis du Père, il nous est transmis. Et à ce moment-là, merveilleuse, on l'a chanté, merci pour la conduite des chants, merci au Seigneur, hein, vous avez compris, merci au Seigneur. Pour la conduite des champs, nous sommes libres. Amen. Nous sommes libres de la colère. Jésus nous a délivrés de la colère à venir. Nous sommes libres du péché. Nous sommes libres de la loi. Nous sommes libres de la condamnation. Nous sommes libres du jugement. Nous sommes libres du passé. Il n'y a plus aucune forme de condamnation. Amen. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là, par la repentance et la foi, l'œuvre de la croix commence à devenir, je dis bien commence parce qu'il y a des étapes derrière, commence à devenir réellement opérante et active dans ma vie, dans ma réalité. C'est que Jésus à la croix prend ma souillure. Jésus n'a pas porté mes péchés. Si Jésus avait porté mes péchés, ce serait déjà extraordinaire comme acte d'amour. Mais Jésus ne porte pas mes péchés. Les Épîtres précisent que Jésus a été fait péché pour nous. Il s'est identifié, il a pris ce qu'il y avait de plus abject chez moi. Il a été fait péché, il s'est identifié, il a été fait péché pour que moi je puisse être justice et sainteté de Dieu. Il prend ma souillure, il me donne sa sainteté. Il prend sur lui la colère de Dieu et il me donne la paix de la réconciliation. Il prend sur lui, il est fait injustice et il me communique sa justice. Il me prend mes haillons, si on pense à la parabole du fils prodigue, Luc chapitre 15, il prend mes haillons et il me donne une robe blanche, symbole de la pureté retrouvée. Il prend mon indignité et il me donne sa dignité. Je ne serai jamais digne par moi-même. Mais aujourd'hui, parce que je suis disciple de Jésus, je suis désolé, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, ça choque. Je suis digne. Pas par moi-même, je suis digne. Je suis fils, pas par moi-même, mais je le suis à cause de ce qu'il a fait de moi. Je suis riche, pas par moi-même, aucun mérite, je n'ai rien fait pour acquérir ça. Il m'a tout acquis par grâce, il a tout payé pour moi. Je suis digne. J'ai été rendu digne, je suis devenu fils, je suis devenu, et je ne veux pas vivre avec une mentalité de mendiant spirituel ou en me flagellant. Non, je suis libre, je suis digne, je suis fils, je suis riche, j'ai un anneau à mon doigt qui est symbole d'autorité, j'ai des souliers à mes pieds qui est preuve de la dignité retrouvée. Le Père a tué le veau gras qui est le symbole de la joie pour n'importe quel pécheur, amen, qui est rentré dans la maison du Père, et j'ai cette robe blanche, symbole de pureté retrouvée. Et moi, je vais marcher, je vais vivre comme ça.
je vais vivre comme le fils aîné. Père, tu ne m'as même pas donné un chevreau pour que je me réjouisse. Et le père dit au fils aîné, mais pourquoi tu me demandes un chevreau? Tout ce que j'ai est à toi. Le Seigneur prend ma condamnation et il me donne son innocence. J'ai retrouvé sainteté, justice, dignité, robe blanche, autorité, innocence. J'ai tout retrouvé, j'ai trouvé la paix, que son nom soit béni. Son œuvre de mort, et nous l'avons chanté, mort et résurrection. Parce que comme dit Paul, si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés, tout ce que vous croyez est inutile. Votre foi est vaine. Son œuvre de mort et de résurrection me rend la vie et c'est sa toute puissance qui est là pour tout effacer. Colossiens 2,14. Il a effacé. Dans l'ancienne alliance, tous les péchés étaient simplement couverts, mais ils étaient toujours là. Et lorsque le sang par le souverain sacrificateur était présenté, lorsque le sang était présenté, c'était une façon de dire à Dieu, s'il te plaît, patiente encore sur nos péchés en l'attente du sacrifice ultime que toi-même tu as promis déjà par l'intermédiaire d'Abraham et d'Isaac, que tu as déjà promis, patiente encore. Les péchés étaient couverts dans la patience de Dieu, mais ils étaient là, c'est comme si on les avait mis sous un tapis. On met en réalité, dans l'Ancien Testament, pardonnez-moi de le dire comme ça, on mettait la poussière sous le tapis et Dieu savait pertinemment que Jésus, le parfait sacrificateur et le parfait sacrifice, allait arriver. Mais quand Jésus vient et qu'il s'écrit sur la croix en rendant l'esprit, tout est accompli. Il est l'accomplissement parfait de tous les types, de tous les symboles. Il est l'agneau parfait, il est souverain sacrificateur parfait. Son œuvre, dit l'Épître aux Hébreux, il l'accomplit une fois pour toutes. Il a effacé l'acte de condamnation. Et peu importe, mes bien-aimés, la taille, le nombre de pages qu'il y avait sur votre acte de condamnation, ça ne change rien parce qu'aux yeux de Dieu, le péché, c'est le péché. Et un acte de condamnation, même s'il y a une ligne dessus, c'est quand même un acte de condamnation. Mais béni soit Dieu parce que cet acte, il l'a effacé, il l'a cloué sur la croix et Jésus dit, tout est accompli, littéralement, il dit, tout est payé. Amen. Ça ne mérite pas un petit sourire, ça, quand même. Tout est payé. Il n'y a plus de dette. Je ne dois plus rien. Il a tout payé. Encore une fois, je ne le méritais pas, mais il l'a fait et je veux le saisir par la foi et m'épanouir dans ces vérités glorieuses. C'est ce que faisait l'Église primitive. C'est comme ça qu'il vivait. Et quand il est dit, il persévérait dans la fraction du pain, mais ce n'était pas juste qu'il faisait la scène le samedi ou le dimanche. C'est beaucoup plus profond que ça. Donc, sauvé de la condamnation, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Ah, c'est vrai que humainement parlant, Jésus est dans l'opprobre, il est dans la honte ultime. Ça confond tous ceux qui l'aimaient. Les disciples sont dispersés, ils ne comprennent plus rien, ils sont tous à la ramasse. Ceux qui sont là au pied de la croix, ceux qui sont partis comme ceux qui sont au pied de la croix, sont dans l'incompréhension la plus totale. Tout semble être une défaite phénoménale, ça semble être la défaite historique, mais en réalité c'est la plus grande et la plus belle victoire, amen, de tous les temps, parce que c'est la victoire dans le monde spirituel. Jésus mort descend ensuite prêcher aux esprits en prison. Quand Jésus ressuscite, avant même sa résurrection, la terre tremble, la nuit vient, les sépulcres s'ouvrent, des morts ressuscitent avant la résurrection de Jésus parce qu'il descend dans le Hadès, parce qu'il va prêcher aux esprits en prison. Béni soit son nom. Et ça signifie la victoire de Jésus, la victoire totale et définitive de Jésus sur Satan, sur les démons, sur l'enfer, ce qu'on appelle communément enfer, qui est la géhenne, la séparation éternelle d'avec Dieu, sur les ténèbres, sur la mort, sur le séjour des morts. L'apôtre Jean dira, Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable, de les rendre impuissantes dans la vie de ceux qui croient. On est riche ou on n'est pas riche? On a tout ou on n'a pas tout? De quoi est-ce que j'ai peur? De quoi est-ce que je peux avoir peur pour demain? J'ai tout avec un merveilleux Seigneur comme ça. Et puis cette œuvre étant, évidemment, on le voit à la lumière des Écritures, et puis dans nos cœurs, par la foi, on le vit, ça nous fait vibrer, eh bien, on voit que cette œuvre étant si parfaite, si belle, étant ultime, suite à 1500 ans d'Ancien Testament, enfin rédigé sur 1000 ans, mais 1500 ans d'histoire entre Moïse et Jésus. Et là, on voit que cette œuvre ultime et parfaitement suffisante est trop précieuse pour que j'ajoute quoi que ce soit. Je ne veux rien ajouter. Je ne veux rien ajouter de moi, je vais la corrompre. Je vais la souiller. Je ne veux rien ajouter de moi. Je ne veux rien enlever, rien enlever, rien ajouter, rien retrancher, rien rajouter. Je veux juste la saisir par la foi, la contempler, l'admirer, bénir, célébrer et adorer mon Dieu. Je veux la saisir par la repentance, la saisir par la foi, comme je vous l'ai dit. Et je veux, comme dit Paul aux Romains, je veux y demeurer ferme. L'Église primitive ne perdait pas de vue cette réalité puissante et elle ne doit jamais s'écarter de cette réalité. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Une église qui avait, on le verra bientôt dans l'étude des églises le mardi, une église qui avait tellement de problèmes. Il y avait tellement de choses à régler dans cette église. Mais Paul résume tout en une phrase clé. Je n'ai pas la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et s'il précise, c'est parce que Jésus-Christ, sa personne, et Jésus-Christ crucifié, c'est son œuvre. Pas son œuvre sans sa personne, pas sa personne sans son œuvre. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous, je vous l'ai mis ici, autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà ce que l'Église, voilà les réalités spirituelles dans laquelle l'Église primitive, n'importe quel disciple, n'importe quelle Église, doit réellement s'enraciner et ne jamais perdre de vue, parce que ce n'est pas seulement le salut, c'est aussi la vie derrière qui en dépend. Et puis, en considérant la réalité de la croix, par la fraction du pain, nous confessons tout cela, bien sûr, mais nous confessons aussi notre appartenance, notre engagement, pas seulement envers le Seigneur, parce que c'est vrai que quand je prends la scène, je ne sais pas si vous y pensez, mais je ne pense pas seulement à tout ce que Jésus est, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a fait de moi, tout ce qu'il a accompli. Je pense à ça, bien sûr, mais je renouvelle intérieurement dans mon cœur. Je renouvelle mon propre engagement. Je lui dis, Seigneur, tu as été tout entier à moi à la croix. Je veux que tu sois, je veux être tout entier à toi. Je te renouvelle mon propre engagement. Je te renouvelle mon appartenance. Tu m'as donné ta vie, Seigneur. Moi, je te donne la mienne parce que c'est la réciprocité de Romains 12. Ça ne peut fonctionner que comme ça. Mais ça va encore plus loin puisque par la scène, et c'était l'unité de l'Église primitive et c'est le sens de la scène. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, si vous ne discernez pas le corps de Jésus, mais aussi son corps spirituel qu'est l'Église, il vaut mieux vous abstenir de la scène parce que c'est un moment extrêmement sérieux où j'ai conscience, comme dit Paul, il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, 1 Corinthiens 17, car nous participons tous au même pain, nous formons un seul. Et les différents morceaux de pain ne me rappellent pas seulement le corps de Jésus qui a été déchiré par mes péchés, mais il me rappelle aussi les différents membres. Et j'ai conscience de mon appartenance, mais aussi de mon engagement de cœur envers ce corps extraordinaire et miraculeux qu'est l'Église de Jésus. Tous membres de ce pain qui a été rompu, différents morceaux de pain, mais un seul pain, différents, les souffrances de Jésus, mais son corps, les différents membres de l'Église, mais un seul corps, différents membres, mais un seul corps. Et tous les membres, nous sommes tous membres de ce pain qui a été rompu, qui a été brisé pour nous, mais nous sommes aussi membres les uns des autres. Ça vous plaît pas, je suis votre corps et vous êtes mon corps, spirituellement parlant. Nous sommes membres les uns des autres. Et c'est une dimension qui manquait terriblement à Corinthe. C'est pour ça que Paul insiste beaucoup sur ces points, encore plus chez eux qu'ailleurs, parce qu'en réalité, ils avaient perdu de vue ces choses, il les avait peut-être plutôt abandonnées, il les avait négligées, et c'est pour ça qu'il y avait tellement de difficultés, de problèmes, de tensions. Ils avaient oublié qu'ils étaient membres les uns des autres. Nous avons un engagement, bien-aimé, dans notre communion spirituelle, nous avons un engagement les uns envers les autres. Et puis, c'est une annonce merveilleuse aussi, une annonce extraordinaire. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Cette merveilleuse proclamation, l'apôtre Paul dit, toutes les fois, c'est aussi dans les Corinthiens, parce que c'est aussi, ce sont aussi des vérités, une autre vérité qu'il perdait de vue. Toutes les fois que vous mangez ce pain et toutes les fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Chaque fois, mes bien-aimés, que nous prenons ensemble la scène, que nous partageons le pain et le fruit de la vigne, chaque fois que nous portons le pain à notre bouche, chaque fois que nous portons la coupe à nos lèvres, à chaque fois, en sommes-nous conscients, il vaudrait mieux, nous annonçons par ce geste, c'est une proclamation, c'est comme si nous disions, oui, nous croyons fermement que Jésus, venu, incarné, mort, crucifié, donnant sa vie volontairement, ressuscité par la puissance du Saint-Esprit le troisième jour, élevé, glorifié, monté dans la gloire, assis dans le ciel avec tout pouvoir, c'est comme si nous disions, nous croyons fermement que Jésus va revenir. Et là, les gens du monde, ils peuvent me regarder, ils peuvent faire comme ça. Ce que le monde pense, ça ne m'intéresse pas. Je crois ce que Jésus, ce que la Bible infaillible déclare de A jusqu'à Z. Oui, nous croyons et nous confessons par la scène le prochain retour en gloire de Jésus. Nous le confessons, nous le croyons fermement. Vous annoncez, c'est une annonce glorieuse. Chaque fois que vous prenez le pain et chaque fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà ce que, au travers de la fraction du pain, voilà ce qui est déjà contenu pour nous par rapport à l'œuvre de Jésus. La semaine prochaine, on continuera sur une autre facette, une autre dimension. Mais peut-être déjà simplement nous souvenir que par l'œuvre suffisante de Jésus, nous qui ne méritions rien, nous sommes pardonnés, réconciliés, nous avons la paix avec Dieu, nous avons retrouvé notre dignité, nous avons retrouvé une autorité, nous avons une légitimité, nos péchés sont totalement pardonnés, totalement effacés. Il a effacé. Je suis qui, moi, pour aller chercher dans les poubelles du passé ? Quand le diable vient et qu'il essaye de me ramener des vieux dossiers, vous savez ce que, je ne lui réponds pas, il ne faut pas discuter, hein. Mais vous savez ce que je pense dans mon cœur quand il y a des vieux trucs, qui remontent sur des ratés de mon passé, des vieux dossiers, quand le diable essaye de faire remonter des choses. En moi-même, je me dis, je sais même des choses à mon sujet que lui ne sait pas. Mais ce que je sais, c'est que Jésus a tout pardonné, je sais que Jésus a tout effacé. Alors je suis qui pour aller chercher dans les poubelles du passé ? Je suis qui pour me laisser accuser ? Ni accuser, ni condamner. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu, c'est Jésus qui t'a justifié. Qui suis-je pour aller accuser un frère ou lui faire un reproche sur son passé ? Si tout est pardonné, tout est effacé. Je vis dans la liberté, la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Je suis libre de la loi, je suis libre du passé, je suis libre de la condamnation, je suis libre du jugement, je suis libre de la peur de l'avenir, je suis libre du péché. Libre, 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 c'est ce que vous êtes des fils et des filles du royaume, vous êtes les dignitaires du royaume de Dieu, vous êtes libres. Amen, et c'est ce que nous commémorons ensemble, que le nom du Seigneur soit béni. Amen, on se recueille ensemble, si vous le voulez bien. Merci pour votre attention.